Bienvenue, chers auditeurs, à ces nouveaux numéros de Panorama Économique, l'émission qui fait la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Au menu de cette émission, le nombre d'investissements en RDC a connu une augmentation de 28% en 2011. 156 projets de près de 6 milliards de dollars ont été approuvés par l'ANAPI. Et puis la Direction générale des impôts, DGI, a clôturé mercredi les opérations de déclaration des recettes collectives au titre de la TVA. L'actualité de la semaine, c'est aussi ce sit-in mercredi des agents du ministère de Commerce extérieur devant le ministère du Budget. Les fonctionnaires du ministère du Commerce extérieur étaient en colère et pour cause, le ministre du Budget aurait, selon eux, refusé de signer l'arrêté devant leur conférer le droit de toucher des primes permanentes. Panorama économique, c'est la rétrospective de l'actualité économique. C'est aussi un invité qui commente et analyse cette actualité. Et aujourd'hui, notre invité s'appelle Mathias Boabouawa-Kayembe, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Professeur, bonjour.
Bonjour, madame.
Jocelyne Moussaou et Dako Tambikila vous présentent ces panoramas économiques. Chers auditeurs, merci de nous suivre.
Panorama économique, le dossier.
Tout de suite, le premier dossier de la semaine, près de 6 milliards de dollars américains ont été approuvés en 2011, selon l'Agence nationale pour les investissements.
L'ANAPI a fait un bilan détaillé mardi qui précise que les secteurs des services et de l'industrie des transformations ont le plus été attirés par les investisseurs, en majorité des Congolais, suivis des Américains, des Indiens, des Chinois et autres. Nadine Foula nous donne plus de détails.
L'ANAPI a agréé en 2011 156 projets d'investissement, un accroissement de 28% par rapport à l'année précédente. Ces investissements agréés par l'ANAPI représentent dans leur ensemble une valeur de près de 3 milliards de dollars, soit une augmentation de 7%. En intégrant les statistiques des investissements du secteur minier, dont le volume est de plus de 2 milliards 800 millions de dollars américains, le coût total des investissements approuvés, tous les secteurs confondus, s'chiffre à 5 milliards 880 millions de dollars américains. Le secteur des services vient en tête du classement avec 85 projets, suivi du secteur des industries de transformation avec 55 projets, de l'agriculture et de la foresterie avec 12 projets, et le secteur des infrastructures vient en dernière position avec 5 projets. Ces capitaux viennent à 47% des Congolais et les autres nationalités se répartissent 53%. Et les provinces de Kinshasa et du Katanga sont les plus attrayantes pour les investisseurs. Les projets agréés doivent en principe créer plus de 12 000 emplois directs. Sur ces plans, il se constate une baisse par rapport à l'année précédente où les projets agréés prévoyaient la création de plus de 15 000 emplois direct. Selon le directeur général de l'ANAPI, il faudrait entreprendre certaines réformes pour provoquer un véritable boom d'investissement multisectoriel.
À tout seigneur, tout honneur, professeur Boabouawa-Kayembe, je me tourne tout de suite vers vous. Vous êtes notre invité d'aujourd'hui. Le nombre de projets en hausse, mais jusque-là, l'agriculture n'attire pas encore plus les investisseurs.
Notre objectif à l'ANAPI, c'est toujours d'arriver à des situations d'analyse en année où nous faisons plus durant une année que l'année précédente par rapport notamment au nombre de projets et par rapport au coût de projets. Donc cela a été confirmé pour l'année 2011. Nous avons fait 156 projets au lieu de 122 en 2010. Et c'est pour un montant environ de 3 milliards par rapport à 2 milliards 800 que nous avions fait en 2010. Mais on constate effectivement qu'il y a des secteurs qui se comportent bien, comme le secteur de services et des industries, des transformations. Et il y a des secteurs qui se comportent encore mal, comme le secteur de l'agriculture. Mais en fait, les services, oui, ça c'est une constatation qui est générale dans tous les pays du monde. Parce que peut-être c'est facile de mettre en place des investissements en matière de télécommunications ou bien en matière d'immobilier, hôtellerie. C'est facile de construire un hôtel, pensent les gens. Alors, les industries, ça c'est vraiment une préoccupation de tous les pays dans le monde. Parce que il faut que la population d'un pays puisse consommer les produits industriels, produits manufacturés, qui sont fabriqués localement, au lieu de consommer des productions qui viennent de l'étranger et qui reviennent finalement très chères, parce qu'ils viennent au pays chargés de fiscalité extérieure, chargés de coûts de transport, chargés de coûts de dédouanement. Finalement, quand ces produits arrivent dans le marché, ils sont très chers. Donc tous les pays voudraient promouvoir l'industrie dans notre pays. Et nous constatons depuis un certain temps que l'industrie commence à montrer de la tête. Mais je crois que ce n'est pas encore, la guerre n'est pas encore gagnée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses
qui sont. Quand vous parlez de l'industrie, c'est dans quel secteur minier? Parce que l'agroalimentaire.
Bon, le minier, oui, déjà, c'est l'industrie. Mais nous avons notamment noté la production de savon et de cosmétiques, la production de matériaux de construction, les produits en plastique.
Et avec le boom immobilier.
Avec le boom immobilier, bien sûr. Parce que le boom immobilier, pour le faire, il faut qu'il y ait des sous-traitants tout autour pour fournir des matériaux dont on a besoin. Donc la production de papier hygiénique, des tissus, les imprimeries, les productions du cuivre et autres minéraux, les industries pharmaceutiques, alimentaires et brassicoles et autres.
Mais pourquoi il n'y a pas encore d'envol pour le secteur de l'agriculture qui s'avère quand même important?
Bon, le secteur de l'agriculture est important. Pour tous les secteurs, en fait, il faut des préalables. Pour le secteur des industries, il faut en préalable, il faut avoir un potentiel hydro, disons, électrique important, parce que les machines tournent avec l'électricité. Donc il faut avoir une quantité suffisante d'électricité. Il faut aussi qu'il y ait une population qui a un pouvoir d'achat susceptible d'acheter des productions qui vont être réalisées. Mais alors, en ce qui concerne l'agriculture, elle est confrontée à des contraintes. Elle a été confrontée à des contraintes, notamment la difficulté d'accéder à la terre, la difficulté d'accéder au financement, la difficulté d'accéder aux semences améliorées et le manque de formation des agriculteurs congolais. Etc. La formation notamment dans l'utilisation, dans l'irrigation et d'autres techniques qui sont utilisées pour faire l'agriculture. Et également, l'agriculture va avec l'existence des routes de dessertes agricoles, parce que quand vous produisez, vous cherchez directement à le vendre. Mm-hmm. Vous cherchez à aller au marché de consommation pour pouvoir vendre. Donc, c'est toutes ces contraintes qui caractérisent notre pays depuis plusieurs années qui font que la situation bouge mais lentement. Et je crois que les autorités ont pris à bras le corps cette situation. Et l'année passée, le Parlement a déjà approuvé la nouvelle loi agricole et le président de la République a promulgué cette loi. Je pense que cette loi permet de répondre à beaucoup de questionnements qui bloquaient l'agriculture.
Voilà, nous savons aussi que l'année 2011 a été marquée par la tenue des élections, l'organisation des élections présidentielles et législatives. Est-ce que cela n'a pas influencé l'élan des investisseurs?
Bien entendu, ça a influencé négativement l'élan des investisseurs. Je pense que si il n'y avait pas d'élection, on serait arrivé à une situation beaucoup plus bonne que celle que nous avons présentée, parce que le dernier semestre, les 6 derniers mois, beaucoup de producteurs locaux ici, mais qui sont de nationalité étrangère, étaient rentrés dans leur pays. Ils étaient rentrés dans leur pays, étant donné que le discours les opérateurs politiques congolais étaient quand même assez durs. Oui. Les propos étaient quand même assez durs. Ça a effrayé beaucoup de gens qui sont partis. Et même des Congolais, il y en a qui sont partis. Et ce n'est pas dans ce contexte-là que certaines personnes pouvaient penser à mettre en place des projets d'investissement dans notre pays. Donc on souhaiterait maintenant que voilà, tout ça est terminé, il y a un Parlement qui commence ses activités, que bon voilà, le discours puisse changer un peu, de telle sorte que ça puisse rassurer, donner une bonne image, parce que investissement, ça veut dire image. Vous allez investir dans un pays qui a une bonne image. Si l'image n'est pas bonne, on ne va pas venir, parce que personne ne peut mettre son argent là où les désordres pourraient entraîner la disons, la casse ou bien la destruction de ce qu'on a fait.
Le deuxième dossier de cette semaine, la Direction générale des impôts, DGI, a clôturé mercredi les opérations de déclaration des recettes collectées au titre de la TVA. Et mercredi, on a assisté à une bousculade des assujettis à la TVA au portillon de la DGI. Les premières difficultés ont déjà été relevées. Certains opérateurs économiques ont du mal à remplir correctement les formulaires et à emmener les documents exigés. D'accord, Tambikila nous en dit plus dans cet élément.
Pour cette première déclaration des recettes au titre de la TVA, la Direction générale des impôts attendait les assujettis, leur déclaration des stocks disponibles depuis le 1er janvier et leur déclaration mensuelle de la TVA, déduite, entre autres, à partir des transactions faites par ces gestionnaires des entreprises depuis le 1er janvier 2012. Et pour bien des chefs d'entreprise trouvés sur place, ce mécanisme est trop compliqué, faute de sensibilisation.
Il y a un problème de la formation. On devait être formé. On attendait les agents et qui devaient nous expliquer comment ça doit se passer. Mais c'est que nous savons que nous récoltons ça auprès de nos clients.
Non, le problème, ce n'est pas de se retrouver.
Ce qui manque, c'est la formation d'abord. On nous avait dit qu'on devait envoyer les gens pour être formés. Jusque-là, on n'a pas envoyé ces gens.
De leur côté, les opérateurs commis au recouvrement de déclarations de la TVA ont eux aussi éprouvé des difficultés avec ces déclarants de la taxe sur la valeur ajoutée à la clôture de cette dernière journée. Selon l'un des inspecteurs d'impôts trouvés sur place, certains chefs d'entreprise ont du mal à remplir les formulaires de déduction de la TVA, d'autres laissent leurs subordonnés signer à leur place. L'inspecteur d'impôts affirme par ailleurs avoir attrapé des assujettis en train de manipuler leurs chiffres d'affaires afin de payer moins que ce qu'ils doivent à la DGI. Des erreurs que certains chefs d'entreprise rejettent à la Direction générale de l'impôt pour n'avoir pas pris le temps de les sensibiliser suffisamment.
Je suis allé retirer les formulaires sans qu'on puisse m'expliquer quels sont les documents que je vais remettre aujourd'hui. Bon, j'arrive, je ne fais que la déclaration des impôts. Puis je croyais que les autres documents c'est à déposer un jour après ou bien à déposer l'administration comme d'habitude.
Vous savez, ici au Congo, c'est quoi? Il faut informer. Quand on informe la nation, et puis il forme des séances de vulgarisation. Là, ça va.
Précisons que cette opération de recouvrement marque la transition entre la perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires ICA et la taxe sur la valeur ajoutée TVA.
Professeur Mathias Bobo-Kembe, vous êtes notre invité ce samedi. La TVA, finalement, un casse-tête pour les opérateurs économiques.
Bon, j'espère que ce ne sera pas un casse-tête. J'espère que finalement les deux parties en présence parviendront à harmoniser leur point de vue. Parce que en fait, ce sont des partenaires. Donc la population qui doit collecter la TVA est partenaire à la DGI. Elle est partenaire à l'État congolais. Parce que c'est elle qui doit mettre l'argent dans la caisse de l'État congolais. Et l'État congolais également est partenaire à ces opérateurs-là économiques. Étant donné que l'argent qui provient de la TVA va servir à l'État à construire des infrastructures socio-économiques dont les hommes d'affaires ont besoin pour fonctionner. Donc, ce qu'ils disent est tout à fait pertinent. Mais c'est toujours un problème parce que, je pense que ce n'est pas une situation seulement congolaise, mais c'est une situation générale. Le discours passe généralement, difficilement, entre les agents du fisc et les opérateurs économiques. Et là, on se rend compte que ça passe difficilement parce qu'eux, ils demandent d'être informés, suffisamment informés sur la méthode appliquée pour calculer la TVA. Et bien souvent, on a vu des rencontres officielles à la télévision et tout ça, mais je crois qu'il n'y a pas eu de rencontre qui touche vraiment les gens qui sont à la base, qui sont sur le terrain. À ce moment-là, on peut arriver à des malentendus. Je souhaite que cet effort d'explication puisse se faire vraiment à la base, qu'on puisse faire des séminaires et des réunions vraiment avec des gens qui sont sur le terrain, qui sont appelés à collecter cette TVA et à verser aux autres, de telle sorte que. Mais au-delà de ça, il y a un problème très très grave qui est que notre économie est caractérisée essentiellement par l'informel. La plupart des gens n'ont pas de comptabilité en fait. Ils sont appelés à payer la TVA mais ils n'ont pas de comptabilité. Ils fonctionnent dans l'informel. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va toujours dire qu'il doit payer les 16%, ou bien on peut appliquer aussi des montants forfaitaires pour dégager ce genre de contraintes de comptabilité auxquelles ils ne sont pas habitués depuis un certain temps.
Mais comment voyez-vous l'impact de l'application de la TVA sur les investissements? Est-ce que cet impôt tant vanté par le ministère des Finances et de l'Économie va finalement alléger les investisseurs et les attirer plus?
Bon, on va voir, hein, parce que nous sommes au mois de février, c'est difficile déjà de tirer des conclusions. Et je crois que nos amis des impôts doivent aussi montrer l'impact déjà de la TVA entre janvier et février, et qu'on voit un peu l'impact de la TVA, parce qu'il était dit que la TVA va intervenir pour plus de 50% sur les recettes réalisées par les régies financières, mais qu'on voit déjà l'impact. Janvier, février, mars, peut-être en mars, on peut tirer des conclusions. Et nous, de notre côté, nous allons observer le mouvement des projets d'investissement qui viennent chez nous. Bon, je crois que normalement, bien qu'il y a un effort, un petit effort qui est réclamé aux investisseurs de pouvoir amener leur projet plus 16% de plus.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'exonération.
Il n'y a pas d'exonération. Donc, hier, il y avait exonération. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exonération. Donc, c'est le coût de leur investissement plus 16%. Mais il est dit qu'ils vont être remboursés. Donc, normalement, comme on a fait des déclarations le 15, les investisseurs doivent être remboursés des sommes qu'ils ont payées en amont à la frontière.
Oui.
Et lorsque leurs équipements entrent. On va voir un peu comment tout ça va fonctionner. Si ça fonctionne bien, je crois que ça pourra finalement être une situation heureuse pour tout le monde.
Panorama économique, reportage.
Sit-in des agents du ministère de commerce extérieur devant le ministère du budget, c'était le mercredi. Les fonctionnaires du ministère du commerce extérieur étaient en colère et pour cause, le ministre du budget aurait, selon eux, refusé de signer l'arrêté devant leur conférer le droit de toucher des primes permanentes. Plus de détails avec Dako Tambikila.
C'est avec Kaniko, sifflet, chant et vuvuzela que les agents du ministère du commerce extérieur ont pris d'assaut les installations du ministère du budget pour protester contre ce qu'ils qualifient de discrimination de la part du ministre du budget. D'après Henri Bassila, président de la délégation syndicale qui conduit ces mouvements, ils auraient appris que les agents du ministère de l'agriculture, des mines et de l'énergie touchent des primes de motivation. Cela fait 10 ans que leur délégation syndicale entreprend des démarches pour toucher les mêmes primes, mais jusqu'à ces jours, il n'y a pas de suite.
Nous sommes là dans le cadre d'une action syndicale pour protester contre la discrimination pratiquée par le ministre Tawa dans la signature des arrêtés en rapport avec la prime permanente. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous avons commencé cette démarche il y a cela 2 ans. Le ministre lui a écrit. Il n'a jamais répondu par rapport à ça. Nous avons établi une relation de correspondance avec lui. Il nous a rassuré qu'il fera quelque chose. Il ne signe toujours pas notre arrêté. Ce qui nous blesse, c'est que les amis de l'énergie, les amis de l'agriculture sont venus après nous. Ils ont leur arrêté. Ils attendent maintenant que le budget soit promulgué pour qu'ils puissent entrer en possession de leurs droits.
C'est finalement à 13h que la délégation est reçue par le secrétaire général au ministère du budget. Lucie a été plutôt positive pour la délégation syndicale qui reconnaît des avancées significatives dans leur démarche. Les agents du ministère du commerce sont donc obligés d'attendre la nouvelle session parlementaire devant voter le budget de l'exercice 2012 avant d'espérer toucher leur prime permanente.
Façon de nous dire que réellement nous étions alignés dans l'exercice budgétaire 2012 pour être bénéficiaires de cette prime. Si jusque-là ils n'ont pas livré l'information, c'est parce qu'au niveau du Parlement, ce n'était pas encore discuté. Et comme ce n'était pas promulgué, c'était pratiquement impossible que les gens soient livrés à cette crédité-là. Comme il y avait pression, alors ils ont dit céder, alors que pour nous convaincre, ils nous ont donné cette information. Nous sommes contents parce que ça fait des années que nous attendions ça. Comme nous sommes alignés, bon, ça, c'est pratiquement la fête.
Précisons que selon la Centrale Congolaise du Travail, syndicat à la base de ces sit-ins, l'État congolais alloue pour chaque ministère des primes de motivation aux agents sur base de leurs fonctions. Mais jusqu'à ces jours, les agents du ministère du Commerce ne perçoivent rien du tout comme prime de motivation.
Voilà, professeur Mathias Boisbois-Kaimbe, un commentaire par rapport à ce reportage.
Bon, écoutez, commentaire, moi-même, j'ai passé toute ma carrière au ministère des Finances, tout d'abord comme fonctionnaire, et puis j'étais au ministère du Budget. Au budget, j'ai été directeur chargé de la préparation du budget pendant plusieurs années, et puis j'étais directeur de cabinet aussi. Donc je sais que l'idéal serait que tout le monde soit logé à la même enseigne que tous les agents de l'État, parce qu'il a été dit qu'on va mettre en place un statut unique. Le statut unique devrait permettre de pouvoir avoir les mêmes salaires, avoir les mêmes primes pour tous les agents. Donc s'il y a des primes pour les agents des finances ou bien du budget, c'est normal que les mêmes primes puissent profiter également aux agents d'autres ministères comme SSLU, etc. Mais tout ça tient aussi compte, comme on l'a dit là, de ce qui est prévu au budget. Ça tient compte de l'assiette qui est distribuable, du montant à distribuer. Et je crois que si le principe de salaire unique n'est pas appliqué, c'est peut-être parce que les moyens budgétaires ne permettent pas de le faire. Mais ça doit être un objectif vers lequel on va pour tout le monde.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref. Au Kasaï Oriental, la Fédération des entreprises du Congo a organisé cette semaine un atelier sur le système comptable OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.
Atelier organisé à l'intention d'une trentaine de comptables publics et privés, et il porte sur le système comptable OADA. D'après le directeur provincial de la FEC, l'objectif est de préparer les comptables à la présentation des états financiers selon les exigences de l'OADA, car la RD Congo fait partie des états membres de l'OADA.
En province orientale, 2 298 000 dollars américains, c'est l'enveloppe du projet de lutte contre la déforestation dans le cadre du processus RED, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation à Isangi.
Les responsables de ces projets du gouvernement congolais ont conféré hier à Isangi même avec les membres du Conseil agricole rural de gestion CARG Isangi. Objectif, informer cette structure d'appui à l'administration territoriale sur les travaux d'aménagement et des présélections des villages susceptibles d'abriter les activités du projet.
Voilà, professeur, un commentaire à faire sur l'une ou l'autre information, notamment le traité OADA. Hein, jusque-là, la RDC n'a toujours pas déposé ses instruments d'adhésion à ces traités.
Bon, je crois que ça a été quand même une mesure courageuse pour nos autorités de pouvoir adhérer à l'OADA. Et là, il y a un séminaire sur le plan comptable, l'harmonisation du plan comptable. Tout ça est très très important pour les investisseurs. Parce qu'en fait, l'application d'un plan comptable permet de mettre la transparence dans le fonctionnement des entreprises. Et ça permet finalement aux investisseurs qui viennent dans ce pays de pouvoir savoir avec quel partenaire ils peuvent traiter. Parce qu'un partenaire, c'est à travers ses états financiers qu'on peut constater s'il est intéressant ou pas. Donc je crois que l'harmonisation des méthodes de comptabilisation et autres, c'est quelque chose de très très important.
Mais il faudra qu'on adhère finalement à ces traités.
Il faudra qu'on adhère. Et je crois qu'on avait expliqué que on n'adhérait pas du fait qu'on n'avait pas bien formé les gens. Et maintenant, on a fait beaucoup d'efforts de formation. Nous allons voir maintenant vers quelle direction nous sommes en train d'aller sur la voie de l'adhésion.
Panorama économique, matière première.
En Ituri, le chef de la cité de Mongualou, à 86 km au nord-ouest de Bounia, déplore la sortie incontrôlée et frauduleuse de l'or du territoire congolais vers des pays limitrophes.
Près de 100 000 orpailleurs travaillent dans cette zone minière sans le contrôle d'aucun service étatique. Le chef des services des mines reconnaît cette situation et accuse l'entreprise minière AngloGold Kilo AGK d'être responsable de ces désordres. José Deschartes Menga revient de cette zone minière.
La cité de Mongualou est une zone minière qui vit essentiellement des activités d'exploitation et de commercialisation de l'or. Le service des mines estime que plus de 100 000 personnes exercent illégalement cette activité dans la zone. Elles sont établies dans les zones d'exploitation de la société minière des Kilomoto, Sukimo, dont une partie est aujourd'hui sous la responsabilité de la sud-africaine Anglo Gold Ashanti Kilo AGK. Toute la production d'or de cette zone échappe totalement au circuit officiel de traçabilité, selon les chefs des cités de Mongualou. Jean-Pierre Bikili Sende. Le service des mines en Ituri reconnaît cette situation. Simon-Pierre Bolombo, son chef de service, indique que cette activité s'exerce en violation du code minier. Il accuse l'AGK d'entretenir cette situation. Côté AGK, aucun responsable n'a été joignable pour éclairer l'opinion. Rappelons que les deux principales mines de Makala et de Senzere, d'où provient cette production, sont pourtant déclarées fermées par les autorités congolaises. Mais en réalité, elles ne l'ont jamais été. Du retour de Mongualou, Bounia, José de Chartemenga, Radio Okapi.
Sortie incontrôlée des matières premières, de l'or notamment, du Bounia, qui est responsabilisé dans cette situation?
Tout d'abord, au service étatique qui est en charge de contrôler la production de l'or, donc le service des mines, soit de contrôler les frontières, c'est-à-dire le service de douane et autres. Parce que c'est toute une saignée là, de la République, les gens produisent. Et ils vont vendre à vil prix dans les pays voisins et finalement cet or ou bien le café et d'autres produits sont comptabilisés à la balance commerciale de ces pays-là et non pas à la balance commerciale de la RDC comme étant des productions de ces pays-là. Je crois que c'est une situation catastrophique. Mais ça arrive dans une situation où il y a quand même une faiblesse des services étatiques. Mais cette faiblesse de service étatique est due elle-même au fait qu'il n'y a pas de comptoir organisé installé là-bas qui peuvent acheter cet or-là. Donc les comptoirs organisés qui peuvent acheter en devise, on les trouve que dans les pays voisins. Donc il faut que nous puissions faire des efforts pour mettre en place des comptoirs d'achat de l'or sur place au lieu de chercher à jeter la pierre à tel ou tel. On peut chercher à jeter la pierre aux orpailleurs, mais ils n'ont pas de travail et je pense qu'ils ont de l'or là-bas, ils vont chercher toujours à l'exploiter pour survivre. Et puis la société Ashanti Gold, mais c'est sa concession, mais elle ne peut rien faire contre les villageois, etc. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est mettre en place des comptoirs qui peuvent acheter la production des orpailleurs congolais à un prix acceptable.
Et voilà, on va conclure ces panoramas économiques d'aujourd'hui. Peut-être un dernier mot sur les investissements.
Bon, le dernier mot que j'ai adressé, je crois, à la population, c'est de pouvoir s'investir vraiment dans les productions agricoles, dans les productions industrielles. Il faut vraiment que nous puissions concurrencer aussi les pays étrangers, que nous ne soyons pas un territoire sur lequel les pays étrangers viennent de verser leur production de mauvaise qualité, mais que nous soyons de véritables responsables qui produisent dans leur pays. Je crois que c'est possible. Nous avons quand même, nous voyons que d'année en année, les Congolais cherchent à faire quelque chose. Ils doivent se mettre ensemble avec les autorités étatiques pour pouvoir mettre en place des stratégies pouvant permettre de le faire sur place ici au Congo.
Voilà, on recevait dans ces studios le professeur Mathias Boabo-Kayembe. Il est directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle. Professeur, merci d'avoir fait ces déplacements pour les studios de Radio Capi pour cette émission Panorama économique. Dako, merci d'avoir co-présenté avec moi cette émission. À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous avec l'économie, c'est déjà lundi à partir de 18h15, heure de Kinshasa, pour Écho d'économie. Panorama économique ce samedi prochain à 12h30, heure de Kinshasa. Restez fidèles au programme de Radio Capi. Surtout, bon week-end à vous tous.